Le paradis sur terre. Évoquer le paradis, l'annoncer, le réclamer, telle est l'ambition du livre provocateur d'Alain Hervé. Pour cet auteur, l'écologie consiste en un retournement de la société humaine actuelle, une société qui devrait abandonner la vitesse, la croissance, la natalité incontrôlée. Jean Tonelli a demandé à Alain Hervé ce que voulait dire ce titre.
Eh bien, c'est un peu obsessionnel dans mon cas, parce que j'ai déjà fait un volume il y a 20 ans qui s'appelait « La proximité folle du paradis » et je persiste et je m'entête à penser que le paradis pourrait exister sur Terre et a sans doute existé.
Quand ?
Il y a un certain temps, disons quelques millions d'années. C'est-à-dire que le paradis, c'est très simple. Nous sommes des organismes vivants, inscrits dans un environnement vivant. C'est le phénomène particulier de la Terre, c'est qu'il y a eu le développement de ce matériau complexe qui supporte la vie sous forme de végétaux, d'animaux, dont nous sommes. Je ne distingue pas les hommes des animaux. Je me réfère à une plaisanterie de Pierre Dac qui disait « Le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous. » Et nous sommes parés des qualités exceptionnelles d'un animal. D'ailleurs, pendant très longtemps, on ne s'est pas considéré comme des animaux. Nous étions des créatures divines.
Oui, d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que très souvent, le paradis, on l'associe au divin. Dans l'inconscient collectif, on nous promet le paradis, ce sont des religions qui nous le promettent. Donc vous jouez beaucoup avec ce terme, peut-être.
Dans la religion dans laquelle j'ai été élevé, le paradis, il était au ciel. Et d'ailleurs, on retient encore la formule du septième ciel, arrivé au septième ciel. Et c'était un séjour post-mortem. Or, ça a été, je dois dire... utilisé de manière très abusive pour faire admettre leur misère aux gens en leur disant « Vous gagnez votre paradis. »
Souffrez sur terre, serez heureux après.
Et le paradis sera la récompense. C'était un système de maintien de la discipline qui a fonctionné. Je crois que le paradis, c'est simplement l'accord des êtres vivants entre eux. Quel qu'il soit, c'est notre association harmonieuse avec les plantes et avec les animaux dans un continuum qui n'est que minoritairement conflictuel. En règle générale, il n'y a pas de conflit. On est en harmonie avec notre environnement. Pour autant qu'on ne va pas chercher des environnements exceptionnels. L'être humain est un animal tropical et il est fait pour le biotope tropical. Il est programmé biologiquement pour le climat tropical, ce qui signifie que quand les hommes ont commencé à nomadiser, à migrer et à vouloir coloniser des latitudes qu'ils ont baptisées de tempérées, ils ont en fait dû transporter les tropiques avec eux. C'est-à-dire le reconstruire avec des vêtements d'abord, des maisons, le chauffage, et puis on en arrive aux centrales nucléaires pour fabriquer du faux soleil en quelque sorte. Alors que si on vit, il y a des climats sur cette planète où il fait 25 degrés été comme hiver. Le plus gros de l'activité humaine, c'est transporter dans des latitudes où il y a des écarts de température considérables et qu'il faut amortir à grands frais.
Pour la planète, parce que c'est elle que l'on abîme en voulant vivre dans des contrées limites pour nous, si je comprends bien.
Oui, mais je crois qu'on ne devrait même pas se distinguer de la planète. Nous sommes la planète. Nous sommes solidaires de la planète. Il y a eu un très fâcheux problème de vocabulaire au début de la prise de conscience écologique, qui était de parler d'environnement. Et l'environnement, c'était une manière de dire l'homme est le maître,
oui.
Et ce qui est autour, c'est son paillasson.
Oui.
Alors l'environnement, on va nettoyer le paillasson, c'est ça. C'était ça, quand Pujade a été le premier ministre de l'environnement. Et la notion d'écologie, qui est globale, a eu beaucoup de mal à s'imposer, dans la mesure où ça impliquait aussi de ne plus faire référence à une divinité fallait abandonner l'idée d'une divinité qui régentait la vie. La vie, elle est régentée par elle-même.
Oui. En fait, si je comprends bien, on pourrait être dans la comparaison avec Copernic qui a sorti la Terre du centre du monde, en fait de l'univers, pour y mettre dans notre galaxie le Soleil. Vous dites la même chose, l'environnement c'est autour de nous, et nous on est au centre, c'est faux. Il faut qu'on soit aussi dans le tout.
Nous sommes solidaires, ce qui est très loin d'être admis, et on peut en arriver très, très rapidement à la politique contemporaine. Je trouve stupéfiant qu'après 40 ans de formulation de l'écologie, par des gens de grand talent, qui sont des écologistes scientifiques, qui ont expliqué toutes ces solidarités, les chaînes alimentaires, les dépendances, l'inter-réciprocité entre les différents états du vivant, nous avons des hommes politiques qui en sont encore, je dirais, au Moyen-Âge. Et presque tous, c'est 90%.
Parce qu'ils sont obsédés par la croissance.
Ils veulent perpétuer le rêve de la suprématie humaine. C'est-à-dire, le milieu dans lequel on vit n'a de raison d'être que pour être au service de l'homme, ce qui est l'erreur fondamentale. Mais je voudrais même dire qu'il n'y a pas de droite et de gauche. La bêtise est partagée. À la rigueur, quelquefois, on a l'impression que la droite a un peu mieux compris que la gauche. Car je suis stupéfait que parmi nos candidats qui se préparent pour être candidat à la présidence de la République, il n'y en a pas un qui invoque les termes d'écologie. Est-ce que ça implique dans notre vie des années à venir? C'est plus des siècles à venir, c'est dans les années à venir qu'il va falloir rétablir des rapports différents avec la nature qui nous entoure, sous peine de disparaître, tout simplement. L'espèce peut disparaître.
Et la Terre s'en portera pas plus mal, peut-être.
Il y a beaucoup d'espèces vivantes qui s'en porteraient mieux.
Oui. Si on veut retrouver, justement, ce paradis, si on veut faire que l'espèce humaine se perpétue en synergie avec la nature, que doit-on faire?
Le programme de restauration va être très long, car les dégâts commis sont extravagants. Et d'abord, notre première erreur, ça a été de laisser s'installer la surpopulation humaine. Nous avons cassé, et ça a été considéré comme d'immenses progrès, nous avons cassé les régulateurs de population qui faisaient que les mères risquaient de mourir en couche, et quand on faisait 7 enfants, il vous en restait quelquefois 2. Grâce à ce qu'on a appelé les progrès de la médecine, qui sont effectivement à bien des égards des progrès, mais en l'occurrence ça a été à l'origine d'une catastrophe.
Comment faire pour pouvoir
retrouver le paradis? Oui. La règle est très très simple, mais elle va être très longue à appliquer. C'est de restaurer l'harmonie de nos rapports avec la nature.
Donc, si on veut faire de la décroissance en termes d'êtres humains, il va falloir faire des régulations de naissance obligatoires. Il va falloir faire quoi? Parce que
il y a eu des essais qui se sont révélés être extrêmement efficaces. Les Chinois ont limité leur population de manière considérable. On dit que leur politique a empêché la naissance de 400 millions de Chinois en l'espace de 50 ans. Donc, quand on veut faire des politiques de limitation de naissance, ça fonctionne. Oui. Évidemment, il y a des excès. On peut citer des cas dramatiques, etc.
Oui, parce qu'on choisit plus le garçon
en Inde,
la fille.
Oui, et puis en Inde, on a castré des gens. Mais ça veut dire qu'il faudra d'une manière ou d'une autre y parvenir, et si on ne le fait pas, ça se fera tout seul, car nous sommes une espèce vivante, et les espèces vivantes qui prolifèrent trouvent des facteurs limitants dans leur développement, et nous sommes en train de développer nos facteurs limitants, qui vont être de toutes sortes, qui sont l'empoisonnement de l'air, l'empoisonnement de la nourriture, qui sont en train de se répandre.
Oui, donc aujourd'hui, nous respirons un air qui est pollué,
oui.
Nous ingurgitons de l'eau qui n'est pas forcément très pure, nous mangeons des aliments qui sont bien souvent industrialisés et par trop.
Et porteurs de toutes sortes de substances chimiques.
Inconnues de notre organisme. On mélange allègrement suivant les plats que nous mangeons, et tout ça crée des perturbations énormes.
Alors, étant donné que toute cette régulation que l'on devrait introduire ne va pas dans le sens d'une accélération de ce qu'on appelle le progrès, ni de ce qu'on appelle la croissance économique. Ça va plutôt dans un sens de modération, de temps retrouvé, d'une sorte de patience qu'on a introduit dans la vie collective, dans la vie de la société, et qui pour le moment n'est pas encore un but vers lequel nous courions. Nous sommes encore des adeptes de la vitesse, nous sommes des adeptes du rendement, nous sommes des adeptes
de la productivité.
Alors évidemment, dans la formulation politique, on le voit même chez les écologistes, la difficulté c'est de mettre au premier plan l'urgence écologique. Par égard pour le public, on met toujours le social au premier rang. Or, le social c'était pas tant, seulement la véritable urgence elle est d'ordre écologique, sous peine d'aller vers des désastres.
Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de notre humanité ?
Vous savez, on met dans l'un et dans l'autre ce qu'on veut, dans le pessimisme et l'optimisme. De toute façon, il va y avoir un rééquilibrage qui va se produire. Il va se produire, soit ce seront nous qui le maîtriserons, soit, comme on continuera de tirer sur la ficelle jusqu'au bout, on devra le subir. Dans les deux cas, très probable que la vie persistera sur Terre, quoi que fasse l'homme. Parce que la vie est un mécanisme d'une résistance phénoménale, d'une force phénoménale. Et ce n'est pas toute notre quincaillerie mécanique qui l'arrêtera. On l'observe déjà dans les végétaux qui ne nous sont asservis que très partiellement. La régulation va se faire.
Donc la vie perdurera avec ou sans nous.
Avec ou sans nous.
Le paradis sur Terre. Un ouvrage d'Alain Hervé paru aux éditions Le Sang de la Terre.